Vous écoutez RTL.
Mettre son propre amour dans un sarcophage, de mettre du béton dessus, enfin, pour moi c'est inconcevable. Il n'y a que des monstres qui peuvent faire ça. Comment on peut faire ça à un être humain? Il faut qu'il parle, parce que pour moi, il n'est pas innocent.
Bonsoir, qui a tué Aurélie Vaquier avant de déposer son cadavre dans un sarcophage? Il y a un peu plus d'un mois, le 7 avril, son corps était découvert sous une dalle de béton dans une maison de Bédarieux, dans l'Hérault. Épilogue d'une affaire criminelle démarrée 3 mois auparavant avec la disparition incompréhensible de cette femme qui allait fêter ses 39 ans, bien dans sa peau, fourmillant de projets. Le portrait inversé d'une personne dépressive ou suicidaire. Son compagnon, Samir L., au regard de son comportement, va attirer l'attention. Il est aujourd'hui écroué pour ce crime qui aurait dû être parfait, un crime qu'il dément. Quoi qu'il en soit, cette interpellation a ouvert une boîte de Pandore pour les enquêteurs. La personnalité du suspect les intrigue et les intéresse au plus haut point. Une vieille affaire non résolue, le meurtre en 2001 de Magali Par en Haute-Savoie, est étudié de près pour savoir si Samir L. n'y serait pas mêlé d'une manière ou d'une autre. Jusqu'où ira l'enquête Aurélie Vaquier ? Pourquoi a-t-on tué cette femme qui n'aspirait qu'au bonheur? Samir, elle, cache-t-il une double vie? Autant de questions et bien d'autres que nous allons aborder ce soir avec nos invités.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc, dans l'heure du crime, l'affaire Aurélie Vaquier, le mystère du sarcophage de béton. Une jeune femme belle, souriante, pleine d'idées et la tête sur les épaules, mais qui pourtant, en cet hiver 2021, a décidé de faire le vide, de disparaître. Le mardi 23 février 2021, Samir L. se présente à la gendarmerie de Bédarieux, petite ville pittoresque de 6000 habitants dans l'Hérault, au nord de Béziers. Cet homme de 39 ans vient signaler la disparition de sa compagne Aurélie Vaquier, qui le mois prochain doit fêter son anniversaire. 39 ans, elle aussi. L'homme indique être sans nouvelles de cette femme avec laquelle il vit depuis le mois d'octobre. Le 28 janvier, elle lui a fait savoir dans un message posté via Messenger qu'elle souhaitait prendre du recul, s'isoler quelque temps pour s'adonner à sa passion, l'écriture. Il ne s'est pas inquiété, car Aurélie est très indépendante. Il a bien fini par essayer de la joindre, mais il voulait respecter son choix de rester seul quelque temps. Samir, elle, explique que quand Aurélie est partie, il n'était pas à Bédarieux. Il était dans sa famille, dans l'Ain, le pays de Gex. Samir est en instance de divorce. Il est allé retrouver là-bas ses 2 enfants, âgés de 9 et 4 ans. Et c'est à son retour dans l'Hérault, avec ses enfants, qu'il a commencé à se poser des questions. Il a trouvé l'appartement vide, une ancienne galerie d'art dans le vieux Bédarieux, au numéro 3 de la rue Courbezou, un local que le couple était en train de réaménager avec le projet d'y installer un jour ou l'autre un restaurant vegan. Avant d'alerter les autorités, Samir, elle, a entendu le retour d'Aurélie. Puis il a prévenu la famille de sa compagne. Les 3 frères cadets de la disparue sont aussitôt tombés des nues. Impossible d'imaginer une seconde leur sœur, jeune femme toujours en mouvement, curieuse, imaginative, partie faire une retraite en solitaire sans donner aucune nouvelle. Elle est très liée à ses frères, avec lesquels elle a grandi dans un village du coin, à Poussan, entre Béziers et Montpellier. Qui plus est, elle déborde d'activités et de projets. Elle aime de plus en plus se déplacer sur les marchés de la région pour y vendre ses propres produits de beauté bio. Shampoing, savon, sel de bain ou encore ses pierres d'orgonite, un minerai qui aurait des vertus énergisantes. Impossible qu'elle ait laissé derrière elle, tout seule, Latika, son petit chat qui la suit partout. Aurélie n'a pas pris sa voiture, le véhicule est resté dans le garage. Elle n'a pas pris non plus son ordinateur portable alors qu'elle voulait s'isoler pour écrire. L'une de ses meilleures amies, Soraya, indique « Chaque fois qu'elle partait quelque part, elle postait un message, une vidéo d'elle en situation, mais là, rien du tout. » Selon son compagnon, Aurélie n'aurait pris avec elle que quelques affaires dans une valise, un nécessaire de toilette. Toutes les hypothèses sont envisagées par les enquêteurs. Suicide, accident, enlèvement ou même départ dans une secte. Le profil New Age est bercé d'ésotérisme d'Aurélie Vaquier, laissant peut-être entrevoir cette possibilité. Bonsoir Yannick Philipponat.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Midi Libre. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être ce soir avec nous pour nous parler de cette affaire que vous connaissez parfaitement et que vous avez couvert pour votre journal. Alors, il va bien sûr y avoir des recherches et on va revenir sur ces recherches. Tout de suite, Yannick Filippona, personne ne croira vraiment à la disparition volontaire d'Aurélie.
Bon, il y a beaucoup d'inquiétudes, hein, effectivement. On ne comprend pas pourquoi elle ne donne plus de nouvelles, puisque ça pouvait arriver qu'elle parte quelques jours, qu'elle puisse faire des mini-retraites spirituelles. Mais dans ces cas-là, elle était toujours très présente, notamment sur les réseaux sociaux. Elle faisait des petites vidéos ou postait des messages pour rassurer ses proches. Et là, ce n'était pas le cas. Donc effectivement, personne ne croit vraiment à une disparition volontaire.
Qui est cette jeune femme, Aurélie Vaquier? Elle est du coin d'ailleurs. C'est une femme qui est née là, dans la région, dans l'Hérault.
Oui, c'est une héraultaise qui est née du côté de Sète, qui a grandi aussi à Poussan et qui là depuis quelques mois à peine vit à Bédarieux. Alors on est un peu plus dans l'arrière-pays hérolté, et si elle est allée à Bédarieux, c'est parce qu'elle s'est mise en couple avec Samir, qu'elle a rencontré l'été précédent sur Poussan, en lui louant une de ses chambres. Le couple s'est rencontré ainsi, et ils ont décidé par la suite, au bout de quelques mois, en novembre 2020, de s'installer à Bédarieux.
C'est ça, de vivre ensemble finalement. On va d'ailleurs parler de cette espèce de liaison qui va se dessiner, et on va parler beaucoup de Samir El dans cette émission. Tout de suite, qu'est-ce qu'il dit, lui, aux gendarmes? Il a l'air étonné, il a l'air surpris, il est choqué de ce qui arrive, il ne comprend pas. Quelle est son attitude lors de cette première déposition?
Lors cette première déposition, il va signaler le fait que sa compagne n'est toujours pas revenue, qu'elle lui aurait effectivement laissé un message via Messenger sur Facebook, lui indiquant qu'elle souhaitait prendre un peu de recul et aller écrire un livre. Elle en avait déjà rédigé deux, et là c'était le troisième qu'elle envisageait d'écrire sur sa vie. Et donc il vient dire ça aux gendarmes. Voilà, elle m'a laissé ce mot, mais bon, les jours ont passé et puis j'ai toujours pas de nouvelles, donc je suis quand même assez inquiet et je viens vous signaler sa disparition.
Oui, c'est ça. Et donc elle est partie pour écrire un livre, ce qui n'a d'ailleurs pas, c'est pas forcément très étonnant, puisque vous l'avez très bien dit, Yannick Filippona, elle a déjà rédigé des pages sur sa vie. Philippe Folté, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne également, vous, dans l'heure du crime. Ancien commissaire de police et vice-président de l'ARPD, c'est l'assistance et recherche de personnes disparues. Alors évidemment, on va vous avoir un petit peu comme fil rouge ce soir dans cette émission. Vous qui avez l'expérience policière de l'enquête, et puis ensuite l'expérience de l'association, où vous rencontrez beaucoup de familles comme ça, à la recherche de disparus, les premières heures, les premiers moments dans une disparition, est-ce que c'est capital dans une enquête comme celle-là?
Alors, tout d'abord, je précise que je suis vice-président régional, hein, Rhône-Alpes, de l'association.
Voilà qui est dit.
Bien évidemment, c'est le message qu'on fait passer auprès de l'ensemble des pouvoirs publics lorsqu'on est amené à les rencontrer. C'est contrairement à ce qui se passe et à ce qu'on voit, ou on a vu surtout dans de nombreux dossiers rhône-alpins, les premières heures sont capitales. Déjà, on n'a pas de scène de crime le plus souvent, puisque disparition dit pas de scène de crime. Donc, il n'y a pas d'indice à relever sur place. Donc, si on ne fige pas, et c'est ce qui s'est fait dans l'affaire du caporal Noyé, heureusement qu'il y a eu ça, si on ne fige pas les données de géolocalisation du portable, des éléments téléphoniques et la vidéosurveillance, on se prive de la possibilité par la suite de pouvoir les utiliser.
Samir, elle, est la dernière personne à avoir vu Aurélie vivante. Il est donc naturellement le premier à intéresser les enquêteurs et à être questionné. Les doutes vont s'accumuler autour de cet homme qui ne montre pas de réelle inquiétude. Dans les jours qui suivent l'annonce de la disparition, les frères d'Aurélie, Jérémy, Arnaud et Kevin, sont à pied d'œuvre pour retrouver la moindre trace de leur sœur. Avec des amis, ils arpentent les rives de l'Orbe, la rivière qui traverse Bédarieux. Les ruisseaux et les points d'eau sont particulièrement explorés suite aux indications d'un médium. Des buissons sont fouillés, un étang est sondé. Nous lançons un appel à tous, chasseurs, randonneurs, pêcheurs, promeneurs, pour nous aider dans nos recherches, fait savoir Jérémy Vaquier. Dimanche 21 mars, une quatrième battue est organisée autour du lac de Salagou. Une quarantaine de personnes se dispersent dans les sentiers. Une nouvelle fois, aucune trace d'Aurélie. Des affiches d'avis de recherche avec des photos de la disparue sont placardées dans la région. Elles n'apportent aucun témoignage probant. Un seul sème pourtant le trouble, celui d'une habitante du centre-ville qui affirme avoir vu la jeune femme. Entre le 8 et le 12 février, Aurélie aurait été aperçue en train de téléphoner seule dans la rue près de chez elle. Seule certitude, la dernière fois qu'Aurélie a vu son frère Jérémy, c'était autour du 15 janvier. Les 21 et 26 janvier, elle a adressé des messages plutôt joyeux à des amis. Dernier message, le 28 janvier, elle faisait savoir à son compagnon qu'elle allait s'absenter, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Aurélie Vaquier est introuvable. Samir est longuement questionné, mais il ne fait que répéter son étonnement, son ignorance quant à ce qu'il a pu se passer. Il indique qu'il n'avait pas de grief particulier contre sa compagne, même si le projet d'aménagement de l'appartement était une source de discussion. Les proches de la disparue tiquent tout de même à propos de Samir. Ils notent qu'il n'est jamais apparu préoccupé, il n'a participé qu'à la première battue, puis ne s'est plus montré par la suite sur le terrain. Les frères d'Aurélie s'étonnent d'avoir été prévenus tardivement de la disparition. D'ordinaire, Samir est plus réactif. Il y a quelques mois, après une dispute et alors que la jeune femme avait claqué la porte, il avait immédiatement fait le tour de ses connaissances pour savoir où elle se trouvait. Samir et Aurélie se sont connus au cours du mois de juin 2020. Cet ancien militaire, marchand forain en instance de divorce, venait de dégoter un emploi de saisonnier dans un restaurant de Marseillan. Il avait trouvé une chambre en colocation dans l'appartement d'Aurélie à Villeverac. Quatre mois plus tard, la jeune femme annonçait à ses frères qu'elle déménageait à Bédarieux pour s'y installer avec Samir, son nouveau compagnon. Annonce qui avait pris de court tout le monde. Je l'ai vue en décembre, elle nous disait qu'elle était heureuse en amour et qu'elle avait plein de projets. Confie à la Dépêche du Midi, Sabrina et Joël, deux amis d'enfance. Yannick Filippona, vous êtes ce soir en ligne dans l'heure du crime, l'un de nos invités, journaliste au Midi Libre. Qui est ce fameux Samir L? Je dis L parce qu'on ne donne pas son nom de famille, il est toujours considéré comme suspect aujourd'hui par les autorités.
Ben Samir L, comme vous l'avez très bien dit, c'est quelqu'un qui a 39 ans, il a le même âge qu'Aurélie. On sait finalement peu de choses de son parcours, si ce n'est qu'il est originaire de l'Ain, qu'il a été dans sa jeunesse, il a décroché un titre de champion de lutte, un titre national et scolaire. Mm-hmm. On sait aussi qu'il a fait plusieurs petits boulots, comme il a été forain, il a été travailler dans les marchandises. Il a fait quelques années au sein de l'armée. Voilà, il s'installe effectivement dans le sud de la France en 2020. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que son casier judiciaire est émaillé de deux condamnations, à la fois pour des infractions routières, mais aussi des petits vols du côté de la Suisse, ouais. Et une condamnation pour désertion. Ouais. Ouais. Toujours en rapport avec le passage qu'il a pu faire dans l'armée.
Avec le passage qu'il a fait effectivement dans l'armée. Ils s'installent très rapidement ensemble, les deux là, à Bédarieux, dans cette espèce d'ancien atelier artistique. Ils ont le projet de construire évidemment quelque chose ensemble. Leur liaison, elle est quand même un petit peu tumultueuse. Dès le début, il le dit Samir aux gendarmes.
Leur liaison est assez récente, effectivement, ça fait que quelques mois qu'ils sont ensemble, ils s'installent très rapidement. Aurélie, toutes ses amies la décrivent comme quelqu'un de très énergique. Père, lui a l'air plus placide, plus réservé, mais on sait qu'il y a eu quelques étincelles, notamment dans le contexte de cette ancienne galerie d'art qui veulent transformer effectivement en restaurant. Donc il y a des travaux, de la poussière, ça agace un peu parfois Aurélie. Enfin, il y a quelques tensions liées au chantier, mais pour autant, tous les proches décrivent un couple qui se porte bien et les amis d'Aurélie témoignent qu'elle se dit amoureuse.
Elle se dit amoureuse et effectivement, elle le répète à ses amis qui vont d'ailleurs le rapporter aux gendarmes. Il faut ajouter, Yannick Filippona, que Samir, il n'est pas présent aux recherches. Il va aller à la première battue, puis ensuite, on ne va plus le voir, il va s'éclipser totalement dans le décor de ses recherches.
Oui, ça a été une grosse surprise et un étonnement de la part des frères d'Aurélie, c'est-à-dire qu'il va participer à cette première battue. Et encore, lors de cette première campagne, un dimanche, il va se montrer un peu sur la défensive, un peu aux aguets. On sent qu'il est, il est pas à l'aise et il va plus du tout participer aux battues en expliquant qu'il a fait de son côté au lieu aussi des recherches et qu'il se sentait pas très à l'aise aussi vis-à-vis de la pression médiatique qui commençait à monter. Et il a quand même une attitude très bizarre par rapport effectivement à la recherche de celle qui avait disparu et qui restait à cette époque sa compagne.
Ah oui, attitude très bizarre, vous avez raison de le souligner. Et évidemment, Yannick, en quelques mots, ça attire tout de suite l'attention des gendarmes. C'est lui, on lui tourne autour finalement.
Les gendarmes qui vont prendre l'enquête très au sérieux vont ce qu'on appelle fermer un peu toutes les portes et les hypothèses et très rapidement ils s'aperçoivent que Samir peut aussi être des suspects étant donné qu'il a de son attitude sur les recherches, le mensonge originel sur le message qui a effectivement le dernier message d'Aurélie qui est daté du 28 janvier, mais aux proches, à la famille d'Aurélie Vaquier, il va expliquer n'avoir reçu ce message que le 15 février. Ça commence déjà à intriguer effectivement les gendarmes qui s'intéressent de près à Samir à ce moment-là.
Un homme qui intrigue les gendarmes. Le 1er mars 2021, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration. Les investigations changent alors de braquet. Désormais, ce ne sont pas moins de 10 enquêteurs de la section de recherche de Montpellier qui travaillent sur le sujet. 2 mois après la disparition d'Aurélie, les enquêteurs et les proches d'Aurélie continuent de passer en revue hypothèses et contre-hypothèses. La possibilité que la jeune femme ne soit offerte une retraite loin du monde n'est pas totalement farfelue, sauf que Aurélie ne serait jamais partie si longtemps. Elle a certes adressé un message à son compagnon le 28 janvier à 1h30 du matin pour annoncer son départ, mais ce message est sujet à caution. Il est bourré de fautes d'orthographe, alors que la jeune femme met un point d'honneur à écrire très correctement, y compris quand elle utilise son téléphone. Les fautes ici sont grossières et la façon de s'exprimer ne cadre pas avec celle d'Aurélie. Une autre main aurait-elle rédigé ce message ? Cela signifierait que la jeune femme a fait une mauvaise rencontre ou a pu être enlevée. Le dimanche 28 mars, une marche solidaire est organisée dans les rues de Sète. Les frères d'Aurélie sont au premier rang. Elle n'a pas pu partir d'elle-même, elle m'envoyait toujours des messages. Il faut laisser les gendarmes faire leur enquête, soupire Kevin. Samir, lui, est absent. Le compagnon n'est pas venu à la marche blanche. Mercredi 7 avril, les gendarmes ont rendez-vous avec Samir dans la maison de Bédarieux. Ils ont prévu de procéder à une nouvelle perquisition au rez-de-chaussée du numéro 3 de la rue Courbezou pour vérifier certains détails. Ils ont déjà visité les lieux sans rien remarquer de suspect. Ils ont passé ce local en travaux où vivait le couple au luminol, une solution qui permet de détecter la moindre trace de sang sans succès. Cette fois, l'attention des gendarmes se porte sur une espèce d'estrade en bois de 20 centimètres de haut, des sacs usagés, des cartons, de la moquette, des outils sont déposés sur ce promontoire provisoire qui semble servir de rebut au chantier en cours. Les enquêteurs ôtent les planches et découvrent au-dessous un coffre en béton qui ressemble à s'y méprendre à un sarcophage. Un géoradar distingue à l'intérieur une cavité inhabituelle, le béton est percé. Le chien de recherche marque subitement l'arrêt. Apparaît alors une mèche de cheveux ensanglantée. On distingue enfin un corps enroulé dans une bâche, celui d'une femme qui porte des chaussons d'intérieur. La morte du sarcophage porte un tatouage de chat et un piercing qui ne laisse guère de place au doute. Il s'agit bien du corps d'Aurélie Vaquier. Yannick Philipponin, journaliste au Midi Libre et qui avait suivi toute cette affaire et qui est l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. C'est pas vraiment un hasard finalement si les gendarmes retournent dans ce logement de Bédarieux. Ils perçoivent qu'il s'est passé là quelque chose de grave et ils vont vraiment cette fois avoir l'intuition d'aller fouiller partout.
Oui, il y avait déjà eu des perquisitions et des recherches et des fouilles dans le domicile. Hein, et plus les gendarmes avançaient, plus ils constataient que personne n'avait pu voir la disparue. Ils ne fermaient pas l'hypothèse qu'elle puisse être encore chez elle. Et c'est vraiment le géoradar de la gendarmerie qui a permis de faciliter ces recherches et de tomber effectivement sur le corps dissimulé sous tout un tas d'objets et recouvert de béton dans ce sarcophage qui est sa dernière demeure.
Ouais. Alors parlez-nous un petit peu, Yannick Filippola, de l'attitude de Samir El. Moi j'ai lu, je n'y étais pas et je n'ai pas recueilli les témoignages des gendarmes sur cette affaire. J'ai lu qu'il avait assisté quasiment sans broncher à la découverte. Il était un petit peu comme absent. Il se serait même exprimé à un moment. C'est quoi ça? Ça pue quand on va retrouver le corps. Comme s'il marquait une surprise, sans doute un peu théâtrale, mais est-ce que c'est comme ça qu'il a réagi?
C'est tout à fait comme ça qu'il a réagi, un peu dans la lignée de sa défense depuis le début de cette affaire. Il a à la fois froid et à la fois surpris que tout d'un coup on retrouve ainsi Aurélie finalement sous ses pieds, là où il était depuis 2 mois, en disant mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça peut être? Et voilà, il joue l'étonné
Il joue l'étonné et à la fois il y a cette froideur évidemment qui se développe. On ne peut pas s'empêcher de penser que effectivement il s'est un petit peu coupé en deux comme ça. Il ne veut peut-être pas assister à cette scène, etc. qu'il connaît ou pas, on ne sait pas puisqu'il nie totalement les faits. Vous l'avez eu, Yannick Filippona, vous, pour votre journal Le Midi Libre. Vous l'avez eu en ligne, Samir El. Qu'est-ce qu'il vous a raconté à ce moment-là?
Il se trouve que le 15 mars, 3 semaines avant la découverte du corps, avec le journal, on avait décidé de consacrer un dossier important à cette affaire et on a essayé de rentrer en contact avec Samir qui a refusé de me recevoir, mais qui a accepté de me parler. Donc la scène était un peu surréaliste puisque j'étais au téléphone devant chez lui à Bédarieux sous la pluie. J'ai eu affaire pendant plus de 45 minutes à quelqu'un qui se faisait passer un peu pour la victime en disant mais Aurélie est partie, il y a des factures à payer, c'est bizarre. Il n'avait pas l'air très inquiet. Il se justifiait surtout sur beaucoup de points, sur toutes les questions qu'on se posait alors à l'époque, sur pourquoi elle serait partie dans une communauté. Alors il essayait de trouver des explications en disant qu'elle aimait bien sortir. Pourquoi elle serait partie sans sa voiture? Mais il me rapportait que la voiture était en panne. Il avait tout un tas d'explications aussi sur son attitude et le fait qu'il n'ait pas participé au battu, en disant qu'il était fatigué, qu'il était très affecté par cette affaire et qu'il avait de son côté participé à des recherches, lancé des appels à témoins, ce qui n'a pas été vraiment vérifié. Franchement, il avait une attitude un peu à la fois désinvolte, à la fois un peu se faisait passer pour la victime, et jusqu'à ce que je lui demande s'il pensait qu'elle était vivante ou pas, et là il a un peu bafouillé, pas oui, peut-être, j'espère, elle est vaillante, j'ai vu une voyante, je l'aurais vu enterrée sous terre près de l'eau. Il me sort cette phrase totalement surréaliste en essayant d'éluder le sujet et en se faisant passer pour quelqu'un de très fatigué et qui veut quand même être un peu inquiet.
Ouais, alors c'est bien sûr un discours très évasif que vous décrivez, même si on le répète hein, encore, Samir El, il a toujours démenti toute implication dans ce crime et il continue à démentir aujourd'hui. Philippe Folté, vous êtes également en ligne ce soir dans l'heure du crime, je le précise, ancien commissaire de police et vice-président régional de l'association Assistance et Recherche de personnes disparues. Yannick Filippona vient de nous le dire, il y a ce géoradar qui est utilisé, il y a la téléphonie qui est exploitée, il y a ces messageries internet qui ont beaucoup d'importance. Aujourd'hui, il y a tout un ensemble tout de même qui permet d'aller plus vite en matière de recherche de disparus, Philippe Folté.
Bien entendu, il y a des moyens techniques qui se sont développés. C'est vrai qu'un certain nombre d'affaires, on l'a vu avec l'éclairage médiatique, a été porté à des affaires récentes, devenues récentes, mais qui portent sur des faits très anciens. La technologie, l'ADN, notamment la biologie, mais pas seulement, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, tout ça permet d'avancer dans les enquêtes de manière beaucoup plus rapide et efficace, si tant est qu'elle soit mise en œuvre. Et c'est le cas depuis de nombreuses années déjà, mais ça a pris une une allure de croisière et quelque chose de très sérieux depuis quelques années.
Oui, alors je disais qu'il y avait une dizaine de gendarmes de la brigade de recherche de Montpellier qui avaient été désignés pour suivre cette enquête. On a tout de même le sentiment, même si évidemment ce n'est pas parfait, le paysage de l'enquête n'est pas parfait, mais on a tout de même le sentiment qu'aujourd'hui, les disparitions inexpliquées prennent tout de suite quand même plus d'importance qu'à une époque. On fait beaucoup plus attention que ça qu'on ne le faisait il y a simplement peut-être 4 ou 5 ans.
Écoutez, je ne partage pas votre avis.
Ah, allez-y, alors dites-moi, c'est intéressant parce que vous êtes vraiment au fait de...
Écoutez, vous savez, notre manière de fonctionner, c'est en réseau. Déjà, on est une association nationale, donc on a des délégations régionales partout en France. On diffuse tous les avis de disparition des policiers, gendarmes ou des particuliers sur les réseaux sociaux. On est amené à soutenir les familles qui nous demandent de l'aide pour les démarches administratives et judiciaires parce qu'elles sont au désespoir et elles donnent l'impression, mais pas seulement l'impression, elles sont complètement désespérées de voir ce néant. Alors, je dis ça, c'est un peu... On me posait la question l'autre fois, on me dit, mais quand tu étais en activité, est-ce que c'était comme ça? Ben, je sais pas, effectivement, sur les disparitions, j'avais pas un focus particulier à l'époque. Mais là, avec le recul et avec l'ensemble des situations qui nous sont, qui sont portées à notre connaissance, on s'aperçoit que c'est désespérant pour ces familles. Et même parfois, quand on arrive à obtenir, par les démarches qu'on opère, l'ouverture de nouvelles enquêtes, parce que les dossiers ont été clôturés, on s'aperçoit que le nécessaire, comme je vous le disais tout à l'heure, n'a pas été fait au départ, et que donc il nous a fait perdre toute possibilité d'envisager des rapprochements ultérieurs.
Après 48 heures de garde à vue, Samir est mis en examen pour meurtre aggravé sur sa conjointe. Il se dit totalement étranger à ce crime. L'enquête va désormais se concentrer sur cet homme et examiner de près son passé judiciaire. Samir, elle, dément obstinément toute implication dans la mort d'Aurélie. Il ignore pourquoi le corps a été déposé à cet endroit, dans cette maison qu'il continuait d'habiter et où il avait hébergé ses propres enfants en attendant le retour de la jeune femme. Selon lui, quelqu'un a tué Aurélie alors qu'il était absent de Bédarieux et a dissimulé le corps. L'autopsie de la victime est destinée à être longue. Hormis une trace de coup au menton, la jeune femme ne semble pas porter de blessure apparente par arme blanche ou par arme à feu. Difficile de savoir comment elle a pu trouver la mort, peut-être à la suite d'un empoisonnement ou d'une asphyxie. En attendant les conclusions des légistes, les gendarmes complètent le dossier Samir L. Cet homme, toujours marié en instance de divorce, n'est pas inconnu de la justice. Avant de collectionner les petits boulots itinérants, vendeurs sur les marchés, livreurs, il avait servi dans le personnel administratif des armées. Il avait été à l'époque condamné à 3 mois de prison à Marseille pour abandon de poste. Samir est également connu des autorités suisses. Il a été condamné dans ce pays pour des délits routiers, des vols. L'un des avocats de la famille Vaquier, maître Félix Alary, dit de lui qu'il a un profil, je cite, de routard. Un profil qui intéresse les gendarmes et les services de police. Ils cherchent à savoir si Samir L ne pouvait pas être impliqué dans d'autres dossiers. Les policiers de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP, une équipe qui travaille beaucoup sur les cold cases, s'intéresse ainsi à l'affaire Magali Parr. Cette jeune femme de 19 ans, vivant dans le pays de Gex, avait été retrouvée morte, son corps carbonisé, le 26 mars 2001, en bordure d'un chemin forestier de Vulbens, en Haute-Savoie. À l'époque, Samir, elle, était comme la victime, âgé de 19 ans. Il habitait dans la même région. Les policiers constatent que le portrait robot établi au moment des faits ressemble au suspect. À ce jour, toutefois, aucune connexion n'a été établie entre Samir et la mort non élucidée de Magali Parr. Pas de trace de cet homme dans le dossier d'instruction. Le père de Magali ne veut pour l'instant pas croire à cette nouvelle piste. C'est encore beaucoup trop tôt. Magali ne connaissait pas cet homme et celui-ci apparaît nulle part, indique pragmatique Éric Bertrand, le père de la victime. Maître Mathieu Montfort, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Richard.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Samir elle, le compagnon d'Aurélie Vaquier, qui clame son innocence. Vous nous accordez ce soir quelques minutes pour nous parler de son cas, c'est important. Les enquêteurs lui reprochent à Samir El des incohérences, des contradictions. Toutes ces incohérences, ces contradictions, elles sont dans le dossier, maître.
Il y a des éléments dans le dossier sur lesquels il faut qu'il s'explique. Après, ce ne sera pas le premier à être mis en cause dans des affaires criminelles. La seule chose où il faut faire attention, c'est les raccourcis. Oui, on retrouve Aurélie Vaquier chez eux. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est lui. C'est pour ça qu'il y a une instruction. Parce qu'à partir du moment où on considère que c'est lui, bon, c'est fini. On le juge, on le condamne. S'il y a l'instruction, c'est qu'il y a des nécessités à vérifier certains comportements, il y a de la téléphonie à regarder, il y a l'expertise informatique à faire, il y a des autopsies à réaliser, etc., etc. Parce que ce n'est jamais aussi évident que ce que ça peut apparaître. Il faut se méfier des raccourcis, c'est le premier pas vers l'erreur.
Oui, c'est ça. Et alors là, évidemment, le juge va vérifier tout ça pour éviter cette erreur dont vous parlez. Est-ce que ça veut dire que vous pensez, Maître Montfort, que votre client est, j'ai envie de dire, est jugé à l'avance, c'est ça?
La difficulté, si vous voulez, c'est qu'on a une situation, on a une affaire criminelle qui génère un emballement médiatique qui dépasse le stade des investigations qui sont réalisées. Et finalement, on est dans une situation où on attendrait quasiment que la peine qui doit être prononcée en quelques jours, voire quelques semaines. Sauf que au niveau du temps judiciaire, c'est beaucoup plus long parce qu'il faut faire des vérifications. Et c'est ces éléments-là qui sont susceptibles de révéler d'autres éléments qui peuvent aller dans le sens de mon client ou contre lui. Le problème, c'est que si on part du principe qu'à partir du moment où on la retrouve chez lui, c'est nécessairement lui, c'est lui le coupable, c'est presque à jamais de dire il est déjà condamné par l'opinion publique.
Ouais, alors ça, évidemment, on peut être déjà condamné par l'opinion publique, l'enquête va le dire et l'enquête est encore longue, on est loin d'être au bout de ces investigations. Philippe Folter, ancien commissaire de police et vice-président régional de l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues, c'est vous Je crois qu'il a attiré l'attention de l'OCRVP, des policiers, sur un éventuel rapprochement, je dis bien éventuel, hein, parce que là, on est sûr de rien, avec l'affaire Magali Par. C'est bien vous qui avez fait cette espèce de lien entre ces affaires?
Oui, alors si vous voulez, ça se passe de la manière suivante. On s'intéresse forcément à toutes les affaires d'actualité, les affaires judiciaires, les disparitions, mais pas seulement. Et donc, comme je vous l'ai dit, on travaille en réseau. Donc, il y a un de nos adhérents de l'Hérault qui, le 9 avril, c'est la veille d'un week-end, je crois, m'appelle et me dit, on vient de... Alors, je m'étais pas intéressé plus que ça à cette affaire, mais visiblement, il y a quelqu'un qui a été interpellé dans cette affaire, Aurélie Vaquier, et qui semble avoir un sacré profil... un comportement assez détaché, froid, qui pourrait peut-être laisser penser à un comportement d'habitude. Bon, il me dit, ce type-là, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai lu dans la presse, il est originaire du département de l'Ain. Effectivement, à partir de ces éléments, moi je cherche dans nos dossiers, dans la région de l'Ain et de la Haute-Savoie, je trouve rien d'approchant. Bon, on a une problématique de dossier de disparition plus ou moins susceptible d'être attaché à un autre suspect qui est en cours de jugement dans une affaire en ce moment. Mais ça me parle pas, ça. Je vois pas de... Et puis, je vais sur Internet et je tombe sur un article très long de Wikipédia où l'affaire Magali Part est disséquée, mais de manière très détaillée. Et au fur et à mesure de ma lecture, je m'aperçois qu'elle est née la même année que lui, qu'elle habite le pays de Gex comme lui. Alors, je n'ai pas d'éléments d'adresse, en tout cas le concernant, mais pour elle, je sais que c'est sur Ornec. Que d'autre part, il fait les marchés. Donc, les marchés, c'est un lieu où on rencontre énormément de monde. Est-ce qu'ils ne sont pas allés, d'ailleurs, dans le milieu scolaire ensemble? Je ne sais pas. On trouve sur la scène de crime des... mégots de cigarettes marocaines qui ne sont pas vendus en France, mais qui sont vendus en Suisse. Il a de la famille en Suisse. Et puis ce portrait robot qui est passé
qui est
sur une émission TF1 de 7 à 8, qui est quand même assez ressemblant. Donc, au vu de ces éléments-là, ben je décide d'appeler l'OCRVP et de leur soumettre.
C'est ça.
Mais j'ai pas vocation, si vous voulez, hein, je tiens à le préciser. Notre association n'a pas vocation à se substituer aux enquêteurs.
Non, vous n'êtes pas des détectives. Vous n'êtes pas des détectives.
Bien sûr. Si on le fait, c'est à l'occasion d'affaires, parce que on démarre sur les disparitions, qui dans un certain nombre de cas peuvent aboutir à la découverte d'un corps, à la découverte de la personne vivante, mort par suicide, mort accidentelle, mort. On a tout l'éventail, y compris les personnes à maladies dégénératives, les personnes âgées, qui font partie et qui voient leur nombre augmenter et qui mériteraient aussi une prise en compte particulière.
Samir, elle, va continuer d'exprimer son étonnement et répéter qu'il est innocent. Son avocat souligne l'absence de charge le concernant. Les prochaines semaines vont être décisives. Mardi 21 avril 2021, la cour d'appel de Montpellier examine la première demande de mise en liberté de Samir El. L'homme, détenu depuis 3 semaines, n'a pas varié d'un pouce dans ses dénégations. Il n'est pas derrière la mort de sa compagne et ne l'a pas dissimulé sous une dalle de béton. L'accusation fait pourtant valoir de lourdes charges contre lui. Tout d'abord, il a beaucoup tardé à prévenir les autorités de la disparition. Puis, il a menti au frère d'Aurélie sur la date du fameux message où elle annonce son départ. Ensuite, le suspect a raconté qu'en rentrant à Bédarieux après un séjour dans l'Ain, il avait trouvé porte close. Or, le jeu de clés d'Aurélie n'a jamais quitté la maison. La victime portait ses chaussons d'intérieur au pied quand elle a été découverte, une tenue pas vraiment compatible avec une sortie, avec un départ de quelques jours. Le jour présumé de la disparition, le compagnon s'est connecté au site de rencontre Badou, a échangé avec 17 personnes et a invité un homme à venir passer un peu de temps avec lui, sans doute certain qu'il ne serait pas dérangé. La cour d'appel rejette la libération du suspect. Maître Tessèdre et Alary, avocats de la famille de la victime, se réjouissent. C'est une décision logique. Il ne suffit pas de nier pour être cru. Les frères d'Aurélie Vaquier attendent désormais les résultats de l'autopsie. Un examen qui parviendra peut-être à dire de quelle façon leur sœur a trouvé la mort. Aucune lésion visible ne permet d'expliquer le décès, avait indiqué le procureur de la République de Béziers, Raphaël Ballan, après la découverte du corps. Les trois frères espèrent aussi que la dépouille de leur sœur aînée leur sera rapidement rendue afin de lui rendre hommage et de lui offrir une sépulture digne de ce nom. Yannick Filippona, journaliste au Midi Libre et qui a suivi toute cette affaire et qui est l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Beaucoup de charges restent pour Samir. Il confiait d'ailleurs même à une amie, avant même que le corps soit découvert, qu'il n'était plus en couple avec elle.
Oui, alors il a pu avoir plusieurs versions hein, auprès de sa famille et d'amis. Il a pu dire qu'il n'était plus en couple. À d'autres amis, il a dit que tout allait bien. Enfin, vraiment, il a eu des déclarations à géographie variable et les gendarmes de la section de recherche s'attachent à faire un peu le tri dans tout ce qu'il a pu
bien
dire.
Sûr. Et Yannick Filippona, pourquoi on ne connaît pas encore les résultats de l'autopsie? Alors, je sais bien que c'est parfois un peu compliqué, mais là, ça m'a l'air vraiment complexe.
Oui, il y a une espèce de mystère autour des causes du décès. Le procureur, au moment de la conférence de presse suite à la mise en examen de Samir, elle, a pas voulu en dire plus en disant que les médecins légistes avaient des hypothèses. Je pense qu'il a confirmé aussi qu'il allait y avoir des examens complémentaires effectués par d'autres médecins légistes et ces résultats ne sont toujours pas connus. Donc ça peut aussi expliquer le fait qu'il reste très prudent. Et puis il y a une question sur l'état de conservation du corps qui a pu passer près de 2 mois dans une bâche, dans un village qui est plutôt humide, près de la rivière. Si le corps est en mauvais état, s'il n'y a pas de traces de peau apparente, ça complexifie la tâche des légistes et on a vraiment besoin de ces expertises complémentaires pour enfin donner une explication à la mort d'Aurélie Vaquier.
Oui, parce qu'elles peuvent effectivement changer complètement la face du dossier. Parce que jusqu'à présent, Yannick Filippona, si on se résume, il n'y a pas forcément des preuves accablante contre Samir. Il y a beaucoup de suppositions. Il y a tout un enchaînement de charges un peu complexes, notamment la téléphonie, enfin, etc. Qu'est-ce qui pèse le plus contre lui aujourd'hui ?
Il y a quand même beaucoup de choses. Hein, que le fait, ce qui a d'ailleurs surpris beaucoup de gens et effrayé beaucoup de gens, c'est qu'il ait pu passer 2 mois chez lui avec le cadavre de sa bien-aimée sous les pieds.
Oui, mais Yannick, j'ai envie de vous dire, c'est pas une preuve.
C'est pas une preuve, sauf que vous avez rappelé l'épisode des clés.
C'est vrai.
L'épisode, il a aussi expliqué qu'elle serait partie avec une valise pour faire une retraite spirituelle. Alors, elle est retrouvée en chaussons. Il y a ces connexions Badou qui sont désagréables, qui ne sont pas une preuve non plus. Mais il y a aussi le fait qu'il a été, les caméras de vidéosurveillance l'ont attesté, il a retiré de l'argent avec la carte
ça c'est important. Alors,
d'Aurélie après, ouais. Après les faits. Ça fait quand même toute une série de successions. Et puis il y a ces mensonges sur la date des SMS, des derniers messages d'Aurélie, truffé de fautes d'orthographe. Aurélie ne faisait jamais de fautes d'orthographe. On a quand même, pour l'accusation, on a l'impression qu'il y a tout a été fait en sorte pour qu'il ne soit pas inquiété. Mais ce qui intrigue, c'est effectivement les raisons du décès et puis le mobile. Il n'y avait pas... quel peut être le mobile ? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux, si bien sûr Samir est impliqué ?
Et bien sûr, et parce qu'il faut, quand même le souligner, Yannick Filippona, il n'a jamais été condamné, Samir, pour violence.
Il n'est pas du tout connu pour des faits de violence et il n'y a pas de traces de coups évidentes qui expliqueraient la mort. Ça, le procureur de la République de Béziers l'a bien rappelé lors de la conférence de presse.
Philippe Folté, ancien commissaire de police, vice-président régional de l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues. Là, dans le cas présent, dans cette affaire, on a retrouvé le corps de la disparue. C'est pas toujours aussi simple et pas toujours facile, hélas, j'ai envie de dire.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui est le plus douloureux pour les familles, c'est de ne pas pouvoir faire leur deuil, de ne pas savoir ce qui s'est passé, comment, quand, où, quel que soit d'ailleurs l'origine de la disparition ou du décès, hein, que ce soit un suicide, un accident ou une affaire criminelle. Et puis, y a quand même aussi ce problème des enterrés sous X qui ne sont pas connus en nombre. Enfin, nous, on les connaît, mais visiblement.
C'est effectivement un vaste débat. Hein. C'est vraiment un débat en soi. Les enterrés sous X, effectivement, c'est des personnes.
Mais juste pour vous dire.
En quelques mots, parce qu'on arrive au bout de l'émission. Dites-moi.
Oui, on voit dans les questions ou les réponses du gouvernement au Parlement régulièrement le chiffre de 800 à 1000 annoncés. Or, c'est faux, on est en train de faire une étude, il n'y en a pas plus de 100, et encore, sur les 100, il y en a une cinquantaine qui sont identifiés après. Donc vous voyez, même dans ce domaine-là, on est complètement à côté de la plaque.
Ouais, tout à fait.
C'est
pas sérieux, effectivement. Et vous faites bien de le rappeler ce soir, vous êtes là pour donner votre avis, on l'écoute bien volontiers. Je voudrais qu'on termine avec Maître Mathieu Montfort, avocat de Samir El, compagnon d'Aurélie Vaquier. Je sais que vous n'aimez pas trop parler de cette affaire, Maître, mais en quelques mots, dans quel état d'esprit est aujourd'hui votre client ?
Il s'explique et il veut que la vérité soit faite sur ce qui s'est passé ce jour-là pour Aurélie Vaquier. Il est nécessairement inquiet puisqu'on le met en cause sur des faits qui sont particulièrement graves. Il s'explique, il attend qu'on entende ses explications et qu'on vérifie ce qu'il explique, tout simplement.
Et qu'il explique tout simplement. Merci Maître Mathieu Montfort, Yannick Filippona et Philippe Folté d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Aurélie Vaquier, un suspect numéro 1 et un sarcophage de béton qui n'a pas livré encore tous ses secrets. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Vivian Lecuivre à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble cette heure du crime.